Deuxième phase. Celle où l'on divinise les pouvoirs et les techniques de l'homme. À l'immense confiance et à l'espoir du siècle des Lumières, en la science et les techniques, a succédé le désenchantement actuel. L'art plastique d'aujourd'hui traduit fort bien les différentes faces de la crise contemporaine. Du culte de la forme pure aux aérodynamismes sophistiqués, au culte de l'informel, succède une contestation radicale qui met en question la valeur même des réalités esthétiques. L'anti-art est bien l'expression d'un doute profond, quand il n'est pas exutoire pour des pulsions vitales élémentaires. Je ne veux pas rentrer dans la terminologie spécialisée des définitions des différentes écoles ou familles esthétiques de l'art moderne. Parce qu'en soi, c'est tout un langage, c'est tout. Il y a toute une gamme. Et bon, elles expriment chacun une manière de cette forme qu'on peut appeler crise, ou de l'expression, ou de la beauté, ou de ce qu'on voudra. Enfin, je ne vais pas rentrer maintenant dans ce domaine. Ça me mènerait beaucoup trop loin de décrypter ce que ça veut dire l'anti-art. Et en fait, l'anti-art, ça veut dire quand quelqu'un, par exemple, on sait que pour les gens qui connaissent un peu le monde des arts plastiques, bon, on sait qu'il y a maintenant des expositions, on en a vu il y a quelques années déjà, c'est une histoire classique, où on expose un châssis vide, par exemple. C'est une dérision. Mais c'est une réalité. C'est une réalité dans le sens qu'on appelle contestataire, qu'on appelle tout ce qu'on voudra. C'est une réalité qui traduit quelque chose. Ou la toile fendue, vide. Ou le bleu clin, qui peint un bleu, c'est le bleu clin, etc. C'est une sorte de dérision qui a une certaine signification, peut-être, mais je ne veux pas me lancer dans la philosophie. Dans ce domaine-là, maintenant, il y a des gens qui pensent à beaucoup mieux que moi, et le problème est de savoir que c'est sérieux. Ça veut dire que c'est sérieux, je veux dire par là que c'est quelque chose qui, au-delà de ce que c'est, de l'objet, ça exprime quelque chose de la crise de notre temps. Voilà mon opinion, c'est personnel. Je pense que ça peut être accepté. Au milieu de ce bouillonnement, comment se pose la question de l'art juif? Existe-t-il un art juif? Existera-t-il un jour? Depuis la création de l'État d'Israël, cette question prend une actualité nouvelle. Alors que jadis, elle était orientée vers le passé, du côté des antiquités judaïques, et des juifs émancipés célèbres comme Pissarro, Modigliani, Soutine. Aujourd'hui, elle se pose au futur. Ça, c'est important. Et c'est la jeunesse qui la pose, cette question. Découvrir les correspondances entre la pensée hébraïque et certaines réalités formelles de l'art semblent être la direction que prennent les recherches qui s'intéressent à cette question aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'interroge, mais non pas pour savoir s'il existait un jour un art juif. Si les peintres juifs émancipés sont vraiment des peintres juifs, si c'est vraiment... Non, ça n'intéresse pas. Ça intéresse encore, mais il y a maintenant des gens qui se posent la question. Comment pourrait être un jour quelque chose qui correspondrait à notre, traduirait notre être juif? Est-ce que c'est pensable seulement? C'est des questions qu'on se pose. C'est intéressant. Et je dois dire, bon, je serais ingrat que toutes ces de ne pas citer simplement les gens dont j'ai lu certains textes ou auxquels j'ai assisté certaines conférences et qui font partie de cette réalité qui est pour moi tellement significative. Eh bien, des hypothèses ont été exprimées par des peintres comme Agam, Ardon, des critiques, des muséographes comme Caniel et Georges Lévy. J'ai retenu, c'est dans le cercle, les trois Parisiens, peut-être dans cette maison, ils ont tous été plus ou moins par là. Par des photographes comme Étienne Bertrand Veil, j'ai lu des textes de lui sur cette question. Des esthètes comme Revaux d'Allonne et Dove Versambert. Et récemment, j'ai entendu un exposé sur des recherches scéniques de Gobrine Brésis. Il y a des efforts d'animateurs tels que Émile Weiss et Myriam Tandy, que je connais pas, qui organisent des rencontres autour de tradition et créativité, et j'en oublie. Je ne cite que les personnes que j'ai entendu exposer, dont j'ai entendu exposer leur point de vue, sur cette question dans un passé assez proche à Paris. Mais je sais, comme je l'ai dit au début, qu'il y a des gens qui ont des chaires d'esthétique en Israël, qu'en Amérique, on écrit beaucoup de choses sur la question, et ça, dans le sens que j'ai défini tout à l'heure. Voilà, alors maintenant, je vais essayer de vous exprimer ce que moi, j'ai compris de ce dont on parle. De quelle manière cette question, les gens se posent-ils cette question? Pour beaucoup, l'art juif s'accorderait fort bien avec une esthétique abstraite, voyez-vous. Ils font référence à Paul Klee, Kandinsky. D'autre part, on distingue entre les œuvres ouvertes, entendons par là, celles qui laissent pénétrer le regard du spectateur, et on les oppose aux œuvres fermées, dont les formes imposent une présence tyrannique à l'esprit, ne laissant que peu de place à l'interprétation du spectateur, imaginaire du spectateur. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, on dit que un des aspects du judaïsme, c'est une certaine dialectique, un dialogue, etc. Il faut donc... Je ne peux pas approfondir. Je fais comme ça, je fais des touches, comme un peintre dit, il fait des touches, il répartit quelques pochades, quelques tâches, quelques traits, mais il suggère plus qu'il n'explique. C'est ce que je suis en train de faire. D'autres citent Nicolas Schaeffer. Nicolas Schaeffer, c'est un sculpteur qui fait des sculptures assez mobiles, qui met l'électronique, enfin la lumière, l'eau. Calder, tout le monde connaît Calder, des mobiles, Agam, qui aussi introduit le mouvement, qui introduisent la durée, le temps dans l'œuvre spatiale. La religion juive serait la religion du temps et non pas celle de l'espace. Alors on cite énormément, alors ça j'étais frappé, on cite énormément Eschel, Abraham Eschel. Alors là, au point que j'ai relu récemment ce texte d'Abraham Eschel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai. Je décèle vraiment qu'il y a un rapport. Abraham Eschel, son livre sur les bâtisseurs du temps. Tout le monde tirait. C'est ainsi. La participation, le dialogue avec l'œuvre, à laquelle le spectateur donne une impulsion pour la transformer, paraît fondamental à d'autres. En ce qui me concerne, je ne partage pas entièrement ce rapprochement qui est fait de l'art cinétique et de la réalité spirituelle hébraïque. D'abord, l'œuvre immobile a d'autant plus de qualité pour moi, ça c'est personnel, qu'elle suggère le mouvement. Pourquoi faire pénétrer absolument dans l'œuvre d'art une partie de l'agitation industrielle du monde contemporain? C'est une question, alors là, je me permets d'être un peu sujet. Mais ça fait partie des choses des différentes possibilités. J'ai aussi mon point de vue sur cette question. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que dans l'ensemble, on rejette le modèle occidental inspiré par la Grèce. Mais alors, de façon presque unanime. J'ai été surpris de constater cette quasi-unanimité, condamnation de l'esthétique de Yavan et Yafet. Le verset 27 du chapitre 9 de la Genèse exprime pourtant la nature des rapports futurs entre Shem et Yafet. Noé dit que Dieu grandisse Yafet et qu'il séjourne dans les tentes de Shem. Voilà le verset. Passage célèbre où les enfants de Noé symbolisent les trois éléments fondamentaux. Ham, qui veut dire chaud en hébreu, la passion, la sensualité, la chaleur, la définition approximative. Yafet, qui veut dire la beauté, l'esthétique, c'est pour ça qu'on est là. Et Shem, d'où vient les sémites. Shem, c'est ceux qui s'intéressent au nom. L'éthique. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce verset ? Que Yafet entrera dans les tentes de Shem. C'est marqué dans la Torah, c'est pas un commentaire. Et c'est un fait que les rabbins, les philosophes, à part une exception fondamentale, c'est la période de Hanouka, les Asmonaires, où l'aspect idolâtre est. Je ne vais pas faire maintenant effectivement, c'est avec ce problème-là, on l'a eu d'autant plus avec les Grecs. Les rabbins se sont d'autant plus rencontrés avec les Grecs que, pour beaucoup de raisons, il y avait des communications possibles. Et si dans la... Les Juifs actuels... ce qu'il faut bien dire, c'est que les rabbins, s'ils se sont méfiés de la Grèce, c'est qu'effectivement, ils ont prévu ce qui arrive aujourd'hui, depuis toujours, c'est que nous, Juifs, nous sommes tentés d'aller dans la tente de Yafet, c'est-à-dire Shem que nous sommes, nous allons dans la tente de Yafet, au lieu que ce soit la beauté qui vient appeler, habiter dans la tente de la vérité, c'est plutôt la vérité qui va habiter dans la tente de la beauté. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Et c'est peut-être ce que cherchent les jeunes aujourd'hui. Comment pourrait bien être le fait que la beauté va aller dans la vérité et non pas que la vérité va aller dans la beauté. C'est mal dit, mais enfin, je pense que ça peut se comprendre. En ce qui nous concerne, cette recherche stylistique ne nous satisfait pas. Ni en tant qu'artiste, ni en tant que juif. Ce qui me... C'est-à-dire que cette tentative de chercher si... Bon, savoir si un art juif doit être plutôt abstrait que figuratif, s'il doit introduire du mouvement mécanique, cinétique ou cybernétique, s'il doit prêter à d'autres parties pris formelles, procède d'une démarche qui mène à une impasse, d'après moi. C'est tout à fait subjectif. L'artiste créateur ne peut se enfermer dans aucune directive d'ordre stylistique. À vrai. Dit à un esprit passionné par la structure des formes de peindre un coucher de soleil sur la mer, ça ne marchera pas. Dit à un artiste amoureux de la nature et de la lumière de s'occuper de structures abstraites, ça, il se fera violence. Dites à un sculpteur qui aime caresser le grain de la pierre et malaxer l'argile, de remplacer ça par le chalumeau, les tubes de plastique, et vous verrez un rejet s'opérer. Mais il peut, bien sûr, il y a tous les goûts sont dans la nature. Et je pense que là, je ne peux pas partager une esthétique a priori, qui serait juif. Ça me paraît être, pour moi, je ne le sens pas. C'est peut-être ça qui va nous donner un dialogue. Dans un monde robotisé, fait de ciment, d'asphalte, de plastique et d'acier, les artistes sont encore parmi ceux qui savent encore s'émerveiller devant les nervures délicates d'une feuille. Ils croient à l'intelligence de la main et à celle du cœur. Et lorsque la pression des normes se fait trop intolérable, Ils savent crier leur désespoir à travers leurs œuvres. Ce sont les raisons pour lesquelles nous pensons que les styles et les techniques de création ne peuvent se décréter à partir d'une spéculation abstraite. Alors, me direz-vous, où puiser les ressources d'un art qui nous affranchirait des clichés culturels à la mode pour trouver un langage plastique en harmonie avec les valeurs essentielles du judaïsme? Une question. Malgré les réserves que je formule sur la manière de fixer les critères d'un art juif, je trouve remarquable le fait de pouvoir trouver des jeunes pour se poser de telles questions aujourd'hui. Alors, mes amis, j'arrive à la dernière et la plus courte, que j'appelle utopie. J'ai longtemps hésité avant de l'exprimer, parce que toujours, j'ai vu que Manitou, mon maître, il allait venir faire une suite sur le prophétisme et les faux prophètes, etc. Bon, j'ai pas envie de mettre tant de temps. C'est toujours dangereux de formuler des utopies. Mais bon, c'est toujours très, ça, c'est subjectif, ce n'est plus. Comment parler d'art sans faire appel à l'imaginaire, sans se faire une image de l'avenir, sans être en quête d'une vision du futur, celle d'une utopie? Les artistes juifs d'aujourd'hui sont plus ou moins des enfants de l'émancipation. La culture dans laquelle nous avons été élevés ne nous laisse que peu de marge de liberté. Moi compris. Notre idée même de la fonction de l'art est liée au rite culturel de notre époque, et de nos sociétés. Mais ce qui précède prouve assez qu'il existe comme un appel, une interrogation, signe précurseur d'exigences nouvelles. On a connu pendant des millénaires un judaïsme sans art spécifique. On connaît depuis 100 ans des artistes juifs sans judaïsme. Connaîtrons-nous un jour un art hébraïque puisé aux sources profondes de la tradition vécue? En considérant que l'humanité a divinisé les dieux durant 4000 ans, comme nous l'avons dit, pendant 4000 ans d'histoire de l'art, depuis 200 ans, elle divinise les pouvoirs et l'industrie de l'homme. Ne peut-on envisager un monde où l'homme serait capable d'humaniser la vie, entre autres, par le truchement de l'art? Pourquoi cela ne serait pas une des dimensions de la messianité juive? De telles hypothèses ont été exprimées, mais dans un contexte très différent, dans l'œuvre de Franz Rosenzweig, L'étoile de la rédemption, qui a été traduite en français récemment et commentée par Stéphane Moses à l'année. La place dans l'art, la place de l'art dans une humanité s'orientant vers la rédemption messianique est envisagée avec un certain développement dans l'œuvre de Rosenzweig. Comment imaginer ce que pourrait être l'artiste juif de demain? Pour nous, c'est David qui illustre le mieux notre propos. David exprime à travers les psaumes toute la gratitude, la joie, la douleur, les cris d'angoisse, l'angoisse. David chante, danse, joue de l'art, du luth, tambourin. David rêve de traduire dans la cité, dans l'espace, ligne, trois fois, la cité de Dieu, de bâtir le temple, résidence de la Shrina. Dieu saint qui sera digne de recevoir les tables de la loi qui est déjà dite dans le tabernacle. David réalise bien la synthèse de l'expression artistique et de l'éthique hébraïque. David, dans la tradition, c'est la préfiguration du Machiach. C'est de David que sortira le Messie. C'est la tradition. Je n'invente rien, là. Le Mashiach, c'est l'homme enfin réussi, selon la définition que donne très souvent Manitou et les rabbins. Ressemblant au projet divin. Un homme pleinement humain, capable de shlemout, de plénitude. Le mot shlemout, tout le monde, qui est un hébraïsant, même élémentaire, comme je veux dire moi, c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Le mot shlemout, dans ce mot-là, il y a shalom, paix, shalem, perfection. Et je vais ajouter, bien sûr, il s'agissait de traduction dans l'espace. Yerusha Laïm, deux fois Shalom. David représente la possibilité pour l'homme de se réaliser, la perfection à l'ombre de Dieu. Notion nouvelle. L'ombre. Enfin, certainement pas selon le concept de la liberté, je crois, à l'ombre de Dieu. Betzalel, Betzalel, à l'ombre de Dieu, c'est la traduction de l'autre partie. Betzalel, Betzalel, on en a parlé tout à l'heure, qui est le nom de l'autre artiste de la Bible, dont nous avons parlé au début de l'exposé. Celui qui a réalisé le Mishkan. Pour l'artiste juif de demain, c'est peut-être à l'ombre de Dieu, comme pour Betzalel, que pourraient s'ouvrir les voies futures de la créativité. Lorsque cette manière d'être particulière se réalisera dans un environnement spécifique, Israël, alors peut-être pourrons-nous réunir les conditions d'un chant nouveau, d'un shir hadash.
Il n'y a pas eu pendant 4000 ans, on ne peut pas parler d'un art plastique. Mais dans la deuxième partie, là, je crois que vous avez mis quelques touches, vous l'avez mis vous-même, mais je crois qu'il y a une étude à faire et l'apport des livres, donc la fécondation de l'élément de la sensibilité juive, la fécondation plutôt de l'art occidental par l'élément juif. Une synthèse à faire de l'apport de l'art juif à la civilisation occidentale. Bon, ça, je crois que c'est à ma connaissance, ça n'a pas été un
problème.
Il y a des artistes juifs. Et faire la synthèse, l'élément, l'apport de tout cela à la civilisation occidentale, je crois que ça n'a pas été fait.
D'abord, je crois que j'ai
mal, alors je suis mal exprimé. Il me semble que je venais de le dire. Je veux dire que les rabbins et la Torah qui ont empêché pendant 4000 ans de faire de leur. Alors que j'ai précisé à un moment donné que c'est l'exil et l'idolâtrie ambiante qui en fait a fait que l'interdiction de pratiquer les métiers, l'exil qui fait que les juifs étaient toujours en promenade dans l'heure, qui les a empêchés en sauna. Et certains, c'est vrai, certains aspects. Oui, et alors d'autre part, vous dites qu'il y aurait une étude à faire sur l'apport des artistes juifs émancipés à la peinture, par exemple, universelle.
L'art occidental, depuis Pissarro jusqu'à Nicolas Schaeffer, on ne le conçoit pas sans les juifs. L'élément juif a fécondé tout l'art occidental. Mais est-ce que c'était des touches disparates, pardon? On ne sait jamais. Il y a une sensibilité juive. Est-ce que c'est uniquement disparate des miettes ou bien il y a une synthèse de faire?
Vous avez trouvé en tant que juif, vous
ne vous en souvenez pas. C'est une question ouverte. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'accord. On ne peut pas faire une dissociation.
D'époque en époque, là ça va. En quelque sorte, c'est le mouvement de l'école qui a rompu avec la tradition, la classique, et l'état de pas mal contribué, si on le dit à l'époque, à détruire cette tradition qui fait une telle culture qui s'inscrit, mais c'est vraiment
plus sensible. Voilà, alors maintenant je me permets de répondre, si vous voulez, à ce qui me semble être la question qui se dégage. Et je vais illustrer ça par quelqu'un que vous connaissez peut-être, M. Herberger. Et qui un jour, je ne sais plus à quelle occasion, je me suis retrouvé en face de lui. Il s'agissait de M. Lem. Est-ce que vous connaissez ce critique? Lem, le critique d'art qui écrivait dans Le Peintre. Pendant, vous vous rappelez de
la campure, avec difficulté, essayer de cerner la peinture.
Il y a, au moment où il y avait une exposition du musée d'Israël, je ne sais bien faire quelle année, ça fait quand même une dizaine d'années, je crois, qu'il y avait au Grand Palais. Il y avait apparu dans un journal qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelle Le Peintre, un article que je trouvais fort d'occupé. Et j'ai interrogé M. Chabanon, qui je crois n'est plus sur vous. Bon, c'était le rédacteur en chef, j'ai dit monsieur. Qui est ce enseignement, oui. Je me suis aperçu que ce n'était pas un juif qui ne connaissait pas. Donc. Je lui ai dit, pourquoi vous me demandez ça? Je trouvais cet article très bien. Eh bien, ça lui fera plaisir. Bon, vous ne voulez pas, à telle occasion, je vais vous le présenter. Je me suis trouvé devant cette personne. Et voilà ce qui m'a. Vous, les juifs, vous êtes des iconoclastes. Vous êtes des destructeurs d'images. Vous faites éclater les formes. Et vous savez à quoi j'ai pensé quand il a dit ça? J'ai pensé à Abraham Avinu, quand il était petit. Le Midrash qui raconte que son papa, il vendait des idoles, Terach, que. Enfin, je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail de la symbolique du Midrash. Mais finalement, ça finit avec un grand coup de balai et toutes les idoles qui sont détruites. C'est ça, l'enfance d'Abraham. Ça veut dire que c'est le début d'Abraham. Destructeur. Et effectivement, on peut aussi dire que, et pour répondre un peu à votre question, si on peut faire une analyse d'un certain point de vue, et positive celle-là, de l'apport des Juifs, de l'apport, c'est encore... Bon, enfin, disons, moi, je... Eh bien, c'est ce sens, c'est ce fait qu'ils ont participé de façon intense à la... à détruire les normes précédentes. Seulement, voilà, à partir du moment où les révolutions, c'est quoi? Il existe des normes. Tout à coup, il y a des gens qui viennent et vont détruire ces normes. Mais cette destruction va engendrer des normes nouvelles. Or, nous sommes dans les normes nouvelles. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer à faire cette révolution-là. Elle est faite. Et pour nous juifs, comme on a dit tout à l'heure, les murs des ghettos, ils sont tombés. Il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Le problème n'est plus là. Et pour les non-juifs, ils ont un problème parallèle à celui-là. Les conventions, disons, de la perfection formelle gréco-latine en tant qu'idéal unique, ça n'existe plus, évidemment. On est maintenant conscient qu'il y a plusieurs modalités d'être et plusieurs modalités de la beauté. Et que, je ne sais pas moi, un beau tapis persan, et ça c'est ou des motifs, des arabesques en céramique de musulmane, ou gobelins, parce qu'on est près des gobelins, eh bien, ce sont des choses qui ne sont pas inférieures, supérieures, ce sont des choses, des langages différents. Je ne sais pas exactement pourquoi je... À quoi ça répond, à quelle question. Je m'excuse, j'ai peut-être divagué, divergé. Oui.
Et ça, il y a quelque chose de vrai. Nous sommes tout à fait vierges d'un point de vue création artistique.
Nous étions.
Et ça a été une nouveauté dans cette production de l'époque, tout ce qu'a apporté la peinture. Et ça a correspondu à ce que vous expliquiez tout à l'heure, qu'à partir de 2016,
par rapport à ce que vous avez dit sur le derrière, bon, c'est vrai qu'il y a eu tout un apport de juifs dans la construction qu'on appelle l'art moderne, vous avez parlé de la musique, c'est là où vous avez un rôle très important. Mais vous dites, nous n'avons pas de tradition en tant que juifs, mais ces gens-là avaient la tradition, puisque les pays dans lesquels ils vivaient. Bon, et ça fait quand même important. Ils avaient quand même une tradition culturelle. Alors, qu'il y ait eu un apport spécifique, peut-être inconscient, je veux dire qu'il en a été pas conscient, quelque chose qui était propre alors à une sensibilité juive, bon, ça pourrait se discuter. Mais en tout cas, ces gens-là ne sont pas arrivés comme ça, ils avaient une tradition picturale, ils avaient une tradition musicale, etc.
Vous parlez par exemple des juifs russes, des choses comme ça.
Oui, non, mais même par exemple dans les musiciens, peu importe, je veux dire, c'était pas là-dessus que je voulais intervenir. Il y a encore un tout petit point, je ne suis pas, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aurais aimé intervenir, mais juste un petit point de précision et après je voudrais dire quelque chose qui me semble plus important par rapport à votre exposé. Sur le fait que jusqu'à la mort de Louis XVI, quand vous dites que jusqu'à la mort de Louis XVI, l'art occidental était au service des divinités, et que bon, ensuite, ça a changé, que ça, c'est ce qui a permis, entre autres, l'arrivée, disons, des juifs sur le marché de l'art, pour parler vite. Je crois que c'est un petit peu rapide, effectivement, parce qu'il y a eu, il y a eu la Renaissance, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, que je crois que le problème important aussi, c'était que l'art était aussi lié au pouvoir politique, et ça n'a aucun lien.
Mais bon, ça, je pense que
vous
l'avez
fait
trop vite.
Symbolise le pouvoir.
Bon.
Simplement, voilà. Moi, ce qui, y a une chose qui m'a frappée, c'est quand vous, à la fin, quand vous avez fait allusion au verset 27, chapitre 9, et que vous avez dit qu'il ne faut pas que. Enfin, je pense ne pas m'être trompée en notant votre phrase. Bon, que les rabbins avaient prévu ce qui allait se passer, et qu'il faut que ce soit la beauté qui aille dans le temple de la vérité, et pas l'inverse. Hein. C'est bien ça, je crois que je ne pas au terme. Ce qui me frappe, c'est que c'est très grec, ça. C'est complètement grec. C'est-à-dire que c'est tous les problèmes, c'est le problème des rapports de l'éthique et de l'esthétique, et que ça, c'est chez Platon. C'est entièrement le problème de Platon, de la manière dont les Grecs ont posé le problème de l'art, et que je ne vois pas en quoi ce serait spécifiquement juif.
D'autant plus que, concernant la tradition, ce qui m'a marqué à ce temps de la Bible, on peut dire que ce texte, ne transmet aucune valeur, ne fait aucune morale, n'exprime pas rien, et fait passer autre chose, uniquement ce que je tente de faire passer actuellement, par exemple, l'Occident avec ses amis. Donc, concernant l'art, on ne peut pas dire qu'il y a un art, même pas une sensibilité juive, dans la mesure où Babel a été un moment génial pour disperser les langages afin qu'il y ait un malentendu et que les langages se confondent. Et je crois que la tendance juive a été toujours, à partir de ce livre, ou à partir de cette symbolique, à partir de ce transfert, a voulu et a insisté à ce que, justement, les choses ne soient pas transparentes, lisibles, et qu'elles gardent cette opacité et cette ambiguïté, qui fait que par définition, l'art rejoint à un moment donné cette chose-là qui a été, après avoir été transparent et vouloir justement faire des images pour représenter ou illustrer telle ou telle divinité ou telle ou telle prière ou telle chose, a commencé dans son histoire à transgresser tout ça, c'est-à-dire avec ou sans les Juifs. Je veux dire, une histoire aussi pulsionnelle que ça ne tient pas en compte, je veux dire, un imaginaire qui serait juif ou un imaginaire qui serait... Il continue de se produire sans nom. Et dans ce cas, ce qui a toujours inquiété tout signifiant religieux, en particulier la religion, c'est l'art. Toutes les religions par rapport au mystique, c'est-à-dire que alors que les mystiques étaient considérés, si je prends même les kabbalistes, comme quelquefois des gens qui faisaient quelque chose qui était de l'ordre de l'art, de la magie, contre la... on se méfiait même dans la religion, les religieux se méfiaient même des kabbalistes. C'est après que les kabbalistes ont influencé la religion. Il y a eu toujours comme ça des mystiques, et les artistes font partie de cette frange de gens qui n'entrent pas dans un rituel précis, etc., une des voies possibles de la rédemption en question, parce que je ne vois pas pourquoi elle passerait par le rituel forcément religieux. Ça serait aussi étroit comme porte, hein. Je veux bien qu'il y en ait pour ceux qui en ont besoin, et tant mieux, mais je veux dire, jamais dans aucun texte ni la Bible ne donne une direction, elle dit ce qu'il faut faire. Il n'y a pas
Alors,
s'il y a des gens qui... Si j'occulte la parole...
Non.
Donc il n'y a pas cette direction, en quelque sorte. Et le danger actuellement, c'est que on veut faire de l'art sacré à nouveau, peut-être, en voulant parler d'art juif. En voulant projeter plus, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne parle pas de vous, je n'en sais rien. Je dis. Et j'ai bien peur que ce retour à une identification, c'est-à-dire à de l'identique, finalement, alors que jusqu'à présent, les Juifs, on peut dire, ont eu ce coup génial, c'est d'être invités, justement, dans le discours. Et l'art, pour moi, ne m'intéresse que lorsqu'il n'a pas d'image, c'est-à-dire que lorsqu'...